connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et jusqu'à 11h, heure de Paris, nous jouons les prolongations après la victoire hier soir de l'équipe de France, 5-2 face à l'Islande, dont 4 buts inscrits rien qu'en première mi-temps. D'ailleurs, jamais une équipe n'avait marqué 4 buts en une mi-temps à l'Euro. Alors il y a certes, me direz-vous, ces 2 buts encaissés. C'est vrai que la défense française a une fois de plus montré des faiblesses, mais ces 2 buts quand même, ces 2 buts islandais, permettent aux Bleus de garder les pieds sur terre, d'autant que la France retrouvera l'Allemagne en demi-finale. Et forcément, face aux champions du monde, ce sera bien plus compliqué que face aux Islandais. Alors, que doit faire la France pour battre l'Allemagne jeudi à Marseille? Vos réactions nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris et nous attendons également vos commentaires sur l'autre demi-finale, Portugal-Pays de Galles. Les Gallois, absents des grandes compétitions internationales depuis 1958, ont réussi l'exploit d'éliminer la Belgique. Les Portugais, quant à eux, accèdent aux demi-finales pour la 5e fois de leur histoire. Alors, vous me direz qu'ils ont l'expérience, mais leur qualification tient tout de même du miracle, puisque depuis le début de l'Euro, ils n'ont pas gagné un seul match dans le temps réglementaire. 33 9 693 693 70, nous en parlons. RFI vous donne la parole durant les 20 premières minutes et nous lançons le débat avec Amos. Bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en région parisienne et vous vous dites « Enfin, l'équipe de France s'est débarrassée de sa pression de pays organisateur ».
Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours été parmi ceux qui ont pensé que la France reste et demeure toujours favorite de cet euro. Mais tout simplement, il y avait certains joueurs qui cherchaient encore leur repère, et tout simplement parce qu'ils étaient le pays organisateur, il fallait bien faire, il ne fallait pas perdre. Bon, maintenant, la France, petit à petit, à retrouver toutes ses aptitudes, et je crois que maintenant le train sera lancé.
Ouais. Et en même temps, vous parlez des joueurs, sans même temps à Didier Deschamps de trouver le bon schéma tactique. Et hier, Didier Deschamps a décidé, pour la première fois d'ailleurs de la compétition, de reproduire le schéma tactique utilisé au match précédent. À chaque fois, il changeait, et là, on s'est retrouvé finalement avec le même que celui face aux Islandais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs et pour l'ensemble de l'équipe de France.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que les schémas tactiques, lorsque on aligne soit la même équipe, soit le même schéma tactique, ça permet également à l'équipe d'acquérir des automatismes et de maîtriser certaines choses dans le jeu. Maintenant, la France, depuis un certain temps, la France, on n'avait pas vu le même match. Les matchs qu'on a vus de la France depuis, c'était pas celui qu'on a vu hier.
Ah oui, c'est vrai. Hier soir, on n'a pas reconnu les Bleus, hein, ça c'est sûr. C'est une nouvelle équipe de France qu'on a eu la chance de voir.
Voilà, tout à fait. Donc ça prouve que les joueurs, il y a eu quand même certains acquis. Et contrairement également à ce que les gens pensent, les 2 buts encaissés, je crois qu'il y a eu 2 facteurs de concentration qui sont à prendre en compte. Il y a d'abord les 4 buts marqués en première mi-temps, qui sont un facteur inconscient de déconcentration. Et en plus, le changement de défenseur en deuxième mi-temps, à savoir Koscielny qui est sorti, et il fallait faire entrer Mangala. Et ça fait que la défense n'avait plus les mêmes automatismes. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet face à l'Allemagne. Lorsque Rami sera revenu, N'Golo Kanté aussi, ça dépend aussi des champs veut. S'il peut revenir, je crois que l'équipe de France, et par rapport aux absents de l'Allemagne, l'équipe de France a son mot à dire dans ce match.
Ouais, c'est vrai que plusieurs joueurs allemands seront absents jeudi soir à Marseille au Vélodrome face à l'équipe de France. Il y a ceux qui sont suspendus, il y en a un en l'occurrence, et il y a les blessés également. Reste avec nous, Amos. On accueille Ibrahima également de Paris. Bonjour Ibrahima.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Est-ce que vous partagez l'analyse d'Amos et est-ce que vous partagez le même soulagement ce matin?
Totalement, ouais, totalement. Si vous vous rappelez bien, j'avais pronostiqué la semaine dernière que la France allait s'imposer. Je vous ai trouvé un petit peu dubitatif. Donc, je crois que les femmes ont donné raison, parce que pour une fois, la France n'a pas fait ce qu'elle faisait, les fautes qu'elle faisait quand elle abordait depuis que le championnat est ouvert. Donc, ils se sont imposés d'entrée, ce qui a facilité les choses.
Ouais. Et vous êtes tout aussi optimiste qu'Amos pour la demi-finale de jeudi soir ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Nous allons la gagner. Nous serons en finale. Nous serons en finale parce que ce sera une revanche pour 2014. Vous savez, l'Allemagne nous a sorti au Brésil.
On s'en souvient tous, effectivement, de cette demi-finale. Mais en même temps, quand on voit ce gardien de but qui n'a encaissé qu'un seul but dans le temps réglementaire, le gardien de but allemand est l'un des meilleurs du monde.
Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Mais on verra bien jeudi à Marseille. Il faudra qu'il le confirme contre nous. Moi, ce qui est sûr, je suis sûr que nous allons passer parce que, comme l'a dit notre ami là tout à l'heure, il y a deux joueurs majeurs dans le dispositif de Joachim Löw, qui sont Sami Khedira et Mario Gomez. Mario Gomez qui roule souvent dans la surface de réparation, qui exploite au cours d'un match deux à trois bons ballons, il en met un au fond, il ne sera pas là, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Mm-hmm. Et Sami Khedira aussi, qui est un élément très important dans le dispositif de Joachim Löw, ne sera pas là. Donc tout ça fait que moi, je dis aujourd'hui, je suis sûr que la France va s'imposer, comme je l'avais dit la dernière fois.
D'accord.
Mais néanmoins, je dis c'est du 50-50.
C'est du 50-50 pour vous. Il y a Ignacio sur Facebook qui nous dit « La France a fait preuve hier soir d'un pressing constant et d'une aisance technique durant tout le match. Ce qui reste le maillon faible, c'est la défense, car face à l'armada offensive allemande, cette défense souffrira. La France devra empêcher l'Allemagne de monopoliser la balle. » Voilà pour la réaction d'Ignacio. Il y a un auditeur, je voyais tout à l'heure sur Facebook, qui était assez critique à l'égard d'Evra. Evra est-il à la hauteur ou finalement il déçoit Ibrahima ?
Moi, je ne le pense pas du tout, parce qu'il y a tellement de critiques, et les pendules ont été remises à l'heure, et les critiques continuent à affluer, mais je pense que ça va lui passer sur le corps, et il va démontrer qu'il est l'un des meilleurs latéraux du monde.
Alors, ce n'est pas le point de vue d'Ousmane, hein, qui nous dit « Je me demande comment un joueur aussi expérimenté accumule les erreurs depuis le début du tournoi. » Il nous dit que malgré cette belle victoire hier soir, il n'est pas très rassuré par la défense des Bleus, notamment le côté gauche avec Patrice Evra. C'est une de vos inquiétudes également, Amos, ou pas du tout ?
Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet du tout, parce que Deschamps est un entraîneur aguerri. S'il continue à mettre Evra jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que, quelque part, Evra a un rôle à jouer dans cette défense-là. Et en plus, Evra est l'un des anciens de cette équipe. Donc, il joue quand même sur beaucoup d'équilibres que nous ne maîtrisons pas. Donc, moi, je pense que Evra va continuer à jouer son rôle. Et jusque-là, ça a plutôt bien marché. C'est vrai, aucun joueur ne peut jouer tout un match, toute une compétition sans faire d'erreur. Mais je crois que ça va passer avec Evra.
Bon, on va suivre ça, évidemment. Merci Amos, merci Ibrahima. 33 9 693 693 70. Biran, vous nous appelez de Dakar au Sénégal. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous n'êtes pas surpris, vous, par la qualification des Bleus ?
Non, absolument pas. Parce que nous avons vu depuis le premier match de la France que la France a une certaine maîtrise technique au niveau du jeu. Même si nous étions un peu dubitatifs avant l'Euro avec l'absence d'un grand joueur comme Karim Benzema, mais nous sommes rendus compte qu'avec la présence d'Olivier Giroud et que la France aujourd'hui est en train de faire des merveilles au niveau de cet Euro-là.
Vous êtes en train de nous dire que Giroud, auteur d'un doublé, nous a fait oublier Karim Benzema. Benzema est désormais loin de nos têtes.
Absolument, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il a réussi à faire taire toutes les critiques. Au-delà d'Olivier Giroud, nous avons aujourd'hui un grand footballeur comme Griezmann qui est en train de faire son Euro. Nous avons aujourd'hui des grands joueurs comme Payet, Dimitri Payet, qui est en train aussi de faire aussi une excellente Euro. Je pense que la France aujourd'hui a toutes les chances, a toutes les cartes en main pour venir à bout de l'Allemagne.
Dimitri Payet qui a inscrit hier son troisième but depuis le début de la compétition et Antoine Griezmann son quatrième but du tournoi avec un superbe ballon piqué. Griezmann qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition et il faut remonter à Michel Platini en 84 lors de l'Euro pour qu'un autre joueur français ait inscrit autant de buts lors d'un tournoi majeur. Biran, restez en ligne si vous souhaitez évidemment revenir dans le débat. D'ailleurs, on va vous demander dans un instant vos pronostics pour le match de jeudi soir, Allemagne-France. Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Italie, c'est bien ça, Franck ?
Oui, en Italie, à Florence.
D'accord. Et vous souhaitiez revenir, vous, sur la défaite de l'Italie, qui s'est inclinée donc face à l'Allemagne?
Oui, oui, ça a été vraiment un coup dur, vu ce que l'Italie avait démontré jusqu'ici. Ça a été un coup dur. Et là, maintenant, et un double coup dur, parce que Antonio Conte, l'entraîneur aussi, c'était son dernier match avec la sélection italienne.
Ouais. Et en même temps, c'était un match ennuyeux face à l'Allemagne. On s'est quand même ennuyé jusqu'à la 53e, 54e minute.
Oui, c'était fermé. Je pense que on a aussi assisté à des prestations de deux grands gardiens. Mmh. Et voilà, ce qui a justement rendu le spectacle un peu ennuyeux, en effet.
Sauf les tirs au but.
Oui, sauf les tirs au but.
18 pénaltys tirés, 11 dedans, 7 dehors. Alors vous allez me dire, rater un pénalty, c'est normal. Mais rater un pénalty en faisant l'idiot, si vous me permettez cette expression, je pense qu'en Italie, la majorité des supporters aujourd'hui sont vent debout contre Zaza. Zaza qui est arrivé, qui est entré d'ailleurs sur le terrain, juste pour tirer ce tir au but. Il a complètement raté son pénalty. Il faisait l'idiot avant même de le lancer. Il y a eu cette course d'élan qui était complètement surréaliste. Comment vous avez réagi, vous, à ce tir raté de Zaza?
Il y a eu une pluie de critiques, ça je peux vous le dire. Il y a aussi un autre joueur d'ailleurs qui a mimé une Panenka. Il a essayé de justifier par la suite qu'il voulait essayer d'influencer le gardien. Et ça aussi, ça a été très mal vécu par les supporters.
Ouais, il ne s'est pas excusé, Zaza, parce que Pelé, lui, s'est excusé après son tir raté.
En effet, voilà, il s'est excusé. Zaza, il ne s'est pas excusé du tout.
Ouais. Alors, Franck, restez en ligne, puisqu'on a Loïc qui est au Gabon, qui souhaite lui revenir également sur ce match Allemagne-Italie. Bonjour, Loïc.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
L'Italie méritait de gagner samedi soir, c'est ce que vous disiez au Standard.
Oui, l'Italie méritait, la Mannschaft également, vu la prestation que l'Italie a fait face à l'Espagne, elle méritait également de gagner. Mais maintenant, c'est, comme on dit, les tirs au but, même une équipe la moins mal préparée peut remporter, peut transformer tous ces tirs au but. Parce que voilà, la Mannschaft, aussi bien la Mannschaft que l'Italie, les deux équipes, ont joué leur meilleur football, ont très bien joué, d'autant plus que l'Italie n'était pas donnée favorite par les bookmakers, c'était une équipe moribonde, etc., etc. Bon, mais vu ce qu'elle nous a proposé, notamment face à l'Espagne, c'était du beau jeu.
Effectivement.
Et également, le jeu qu'elle nous a proposé face à l'Allemagne, c'était également du beau jeu. Vu que c'est d'abord l'Allemagne qui a ouvert le score, et l'Italie, n'est-ce pas, égalisée. Bon, mais maintenant, elle n'a pas pu concrétiser lors des prolongations. Et voici que les tirs au but, ce n'est pas toujours chose facile. Même les meilleurs
Les meilleurs ratent. Hein. On a encore l'image de Ronaldo ratant un penalty, Ibrahimovic également. Donc, ça arrive évidemment aux meilleurs. Même Lionel Messi dans la Copa América a raté un but lors de la finale. Un pronostic, Loïc, à vous entendre, vous êtes plutôt supporter de l'équipe allemande. Un pronostic pour jeudi soir?
Non, je sais pas. Bon, un pronostic, je dirais plutôt 2-1.
2-1
en faveur de l'Allemagne.
Ah, 2-1 en faveur de l'Allemagne. Franck, à Florence, en Italie, votre pronostic pour jeudi soir?
J'espère. Je m'aligne comme Loïc, 2-1 faveur de la France.
Ah, en faveur de la France pour vous, puisque pour Loïc, c'était en faveur de l'Allemagne. Et Biran, à Dakar, votre pronostic?
Je pense que la France va gagner par 1-0.
1-0. Voilà pour les pronostics en direct sur l'antenne d'RFI. Merci Biran, Franck et Loïc. Bonne journée à tous les trois. On repasse très vite au Standard au 33 9 693 693 70. Sylvain, bonjour.
Bonjour Johan.
Vous êtes à Dijon. Vous avez regardé le match hier soir, évidemment, comme des millions de téléspectateurs. Et vous n'avez pas été convaincu, vous, par l'équipe de France?
Oui, j'ai pas été tout à fait convaincu. Comme Didier Deschamps lui-même l'a dit, c'est que la France n'a pas tout bien fait. La France a peut-être su faire déjouer l'Islande. La France a su faire atténuer un peu leur enthousiasme qu'ils ont depuis le début de la compétition. Et ils ont aussi permis de comprendre qu'une équipe à un tel niveau de compétition doit pouvoir rester concentrée. Mais la France s'est beaucoup plus appuyée sur son individualité. Et je pense que ce que Didier Deschamps dit concernant aux choses qui n'ont pas marché dans son équipe, c'est beaucoup plus au niveau du collectif. La France, pour moi, c'est une équipe qui manque un peu, je dirais même beaucoup, au niveau de l'expérience collective. Cette expérience, on aurait pu l'avoir au fil des compétitions, mais il y a eu tellement de changements liés aux blessures, aux cartons et autres, que les joueurs n'ont pas su, les joueurs qui rentraient dans des dispositifs tactiques n'ont pas su s'adapter pour être aussi performants qu'ils le sont, ouais, peut-être dans des schémas habituels.
Face à l'Allemagne, les Bleus ne sont pas favoris. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a reconnu hier en conférence de presse après le match. Quel dispositif les Bleus devront-ils mettre sur le terrain pour tenter de gagner et de décrocher donc cette place en finale?
Moi, ce que je constate, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des changements au niveau du dispositif, je pense notamment à Pogba et Matuidi qui sont dans l'axe, chaque fois qu'ils ont changé de poste par rapport à leur poste habituel, il y a eu beaucoup de difficultés dans le collectif de l'équipe. Moi, je pense que il faut que ces joueurs soient le plus efficaces possible dans le match, dans le collectif, pour que l'équipe tout entière soit performante, quoi. Il faut que Pogba puisse jouer à son poste. Il faut que Matuidi, qui est toujours performant dans le dispositif qu'il occupe au Paris Saint-Germain, soit à son poste, et que des joueurs soient beaucoup plus... Il y a un match beaucoup plus intense, parce que on note que l'intensité du match dans l'équipe de France n'est pas celle qui sera face à l'Allemagne ou qui aurait pu être face à l'Italie. Donc il faut un jeu beaucoup plus intense et porté vers l'avant.
Merci Sylvain de nous avoir appelé de Dijon. Merci de nous écouter sur internet rfi.fr. Réaction sur Facebook de Mamadou qui nous dit: sur le plan offensif, l'équipe de France se porte bien, mais c'est au niveau défensif que Didier Deschamps doit opérer de gros changements, car si l'Islande a été en mesure de marquer de buts, l'Allemagne peut en marquer bien plus. Franklin nous dit que l'équipe de France a été magnifique hier soir face à la combativité islandaise. Les attaquants se sont vraiment amusés et le reste de l'équipe a su donner le meilleur. Bonjour Teddy.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez-vous de Toulouse? Décidément, la France nous appelle ce matin. Vous êtes à Toulouse et vous avez suivi hier soir le match dans une fan zone, dans la fan zone de Toulouse.
Tout à fait Juan Gomez, j'ai été à la fan zone pour regarder le match des Bleus. Et c'était fantastique, l'ambiance était festive, agréable, il fallait le vivre, Juan.
Et alors, qu'avez-vous vécu, alors?
Allô, eh bien, oui, c'était super, comme j'ai dit, on a chanté, on reprenait l'hymne national après les supporters de Stade de France, et voilà, quoi, et on faisait des halls, et à chaque fois que les Bleus, ils faisaient des passes à quelques minutes de la fin, donc voilà, c'était bien et tout. Bon. Moi, je suis confiant pour la demi-finale, Juan.
Demi-finale à suivre, évidemment, sur l'antenne d'RFI. Ce sera jeudi soir, Allemagne-France. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette demi-finale, RFI sera jeudi à Marseille. Et nous y serons également avec nos invités. Nous dresserons un bilan de la compétition. Vous nous livrerez vos pronostics pour le match du soir. Et nous lancerons le débat sur l'Olympique de Marseille, puisque le club le plus populaire de France est en déliquescence sur le plan sportif. La saison a été catastrophique. Pourquoi? Quel avenir pour l'OM? Quel regard portez-vous d'ailleurs sur cette équipe qui compte des millions de supporters à travers le monde? Donc si vous êtes à Marseille, rendez-vous jeudi à la brasserie Les Danaïdes, c'est square Stalingrad, veuillez nombreux, faites passer le message. Et vous qui nous écoutez à travers le monde, vous pourrez également, comme tous les matins, réagir par téléphone et sur les réseaux sociaux. Demain, nous lancerons le débat sur la mendicité des enfants talibés. C'est un phénomène qui concerne de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, où selon les ONG, 80 000 enfants sont envoyés dans les écoles coraniques, passent leur journée en fait à mendier, ils sont exploités. Les autorités sénégalaises ont décidé de s'attaquer à ce problème. Alors comment mettre fin à cette exploitation? Quelle est l'ampleur de ce fléau dans votre pays? Vous nous appelez, vos témoignages et vos réactions nous intéressent. Passez une bonne journée, à suivre dans 10 minutes, Priorité Santé. Merci à tous.
Écoutez aujourd'hui.